redécouvrir Hélène Pedneaux. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneaux, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Première série, Les carnets du lac. Deuxième épisode. Premier carnet. Les lacs ne parlent pas, ils réfléchissent. Les êtres humains ne réfléchissent pas, ils parlent. C'est la plus irréconciliable différence entre nous. Ils ont inventé des tas de codes et de machines pour parler, s'amplifier et se reproduire. Des milliers de langues, de dialectes, de borborygmes. Ils parlent avec la bouche, les mains, les yeux, dans des micros partout, des bibliothèques. Ils ne sont pas là en personne et continuent de parler. Sur des papiers, des rubans, des écrans, jusqu'en dormant, ils parlent. Ne pas reconnaître le silence à ce point-là tient du phénomène de foire. Ils parlent sans ouvrir la bouche, avec le non-dit. Leur tête est vide, ils parlent. C'est stupéfiant. Peut-être les myopes et les distraits se laissent-ils prendre par l'épuisante variété de leurs paroles, mais moi, je ne souffre pas de glaucome. Je suis de ces quelques lacs qui voient clair encore. Je devine qu'ils parlent pour oublier et non pour se souvenir. Je n'ai pas fini de découvrir ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ce vacarme, à chacun sa façon de noyer. Qu'inondent-ils ainsi? Où vont tous les mots qu'ils laissent couler? Dans quel flot de paroles sombrent-ils? Je pressens un terrible secret. Dieu n'a-t-il donné la parole aux êtres humains que pour mieux cacher leurs réflexions? Ils croient que leurs phrases commencent avec eux. Ils sont comme ça. Ils croient qu'une maille seule fait un chandail, qu'un arbre seul fait une forêt et qu'une ville seule fait un pays, pourvu qu'elle soit pleine à ras-bord. Ils n'ont aucun sens du tricot. Quand ils parlent, ils croient que personne d'autre ne parle avec eux. Ils oublient qu'ils viennent d'avant leur naissance, qu'ils sont attachés à des lignées. Je les comprends. Les gènes les embarrassent. Ils ne savent pas comment être responsables du gâchis. Ils sont des milliards à vouloir être le début du monde. Ainsi, ils croient qu'ils ne parlent que dans leur siècle, avec leur époque. Ils sont persuadés que ce sont eux qui parlent, personnellement, parce que le canal d'où sortent les mots leur appartient. Une pitié. C'est à peine s'ils peuvent se dire propriétaires de leur corps. J'ai entendu dire qu'ils auraient tous un extrait de naissance. Ils prennent ça pour une preuve, mais ça ne me semble pas équivaloir aux actes de propriété qui font exister les terres et les maisons qui me bordent. Un extrait n'est qu'un tout petit morceau d'un tout. Alors, où est le reste? Viennent-ils au monde incomplet? Cette incertitude doit être difficile à supporter pour des êtres qui ont tant besoin de certitude qu'ils transforment les extraits en tout, les miettes en pain complet et les idées en vérité. D'un déséquilibre, ils font un gratte-ciel. Moi, quand je réfléchis, je sais que je ne suis qu'un miroir où se mirent la montagne, les arbres et le ciel. Ce bel égocentrique revêtu du bleu qui porte son nom, qui se pare de nuages, de toutes les teintes, de beau temps en mauvais temps, rien que pour avoir le plaisir indicible de s'admirer dans mon reflet. Quand je deviens le lit de la lumière, l'écrin du soleil de midi ou le cimetière des rosées et des orangers du soleil couchant, je ne me prends pas pour le maître du monde. Je vis dans la nécessité de la beauté. Je fais ce que j'ai à faire, je suis. Quand je donne à boire aux chevreuils, quand je mouille la terre sèche, quand je ride aux humeurs variables du vent et que je donne les poissons de mon ventre aux huards pour nourrir ses petits, je sais pourquoi j'existe. J'ai autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi et chacun de leurs gestes. Un seul orage et la ligne de mes os mange un peu plus de sable que de coutume. Un seul petit barrage de castors et je gonfle à leur faire peur. Je ne décide rien. Je me mets en accord. Je déborde de compassion pour ces petits êtres qui connaissent si peu la musique.
Mais je sais que ces annonces, c'était pour elle une bouée extraordinaire, tu sais. Puis on l'enviait quelque part, parce que tout, surtout aujourd'hui, tout le monde veut aller vivre au bord d'un lac ou dans la nature. Mais pour Hélène, ça a été très, très salutaire, je pense.
Sur ma rive loge une fille seule. Elle se glisse en moi parfois. Je la vois ramasser des branches mortes sur son terrain. Elle parle beaucoup. Elle cueille les mots comme des fraises. Elle est un facteur qui porterait ses lettres au-dedans de lui. Elle construit des idées, parfois avec du bois vert encore plein de sève, parfois avec du vieux bois gris qu'elle ponce et recycle, parfois avec du bois mort. Ça ne tient pas toujours debout. Elle recommence, avec la ténacité d'une goutte d'eau. Tous les moyens lui sont bons pour parler. Elle ne se prive pas. Je crois même qu'elle se drogue avec les mots. Je ne l'ai jamais vue faire, mais je l'entends. L'été, par la porte moustiquaire d'une pièce qui me surplombe, je l'entends souvent claquer des doigts. L'hiver, son bruit me manque. On finit par s'attacher, même quand on est si différent. Quelle folle! Elle est dans l'ivresse à la journée longue. Elle a entrepris de me traduire. Elle est touchante. Je ne savais pas qu'elle était bilingue. Je me demande où elle a appris à parler haut. Je la laisse faire, même si je sais bien qu'elle ne peut traduire rien d'autre que sa propre langue, et encore. Elle se censure d'elle. Il m'apparaît que les êtres humains sont tous un peu semblables. Ils passent la plus claire partie de leur peu de temps à se méprendre. Ils parlent, mais muets. Ils dominent, mais écrasés. Ils bâtissent, mais destructeurs. Ils pensent voir clair, mais épaississent le brouillard. Des géants, mais petits. Des illusionnistes, ce qui veut dire disciples de l'illusion. Et ils se présentent tous comme des gros amateurs de vérité, même les menteurs. J'ai vite compris que c'était leur sport préféré. Chacun croyant être le seul dépositaire de la révélation, ils font des guerres de la vérité, des sectes de la vérité, des idéologies de la vérité, et ils comptent les points de chacune des équipes. Quand la partie est terminée, l'équipe perdante compte ses morts et l'autre compte les spectateurs qui regardent passer le défilé de la victoire. Moi, quand je fabrique des images virtuelles toutes plus belles les unes que les autres, je le dis sans prétention, je n'ai aucun mérite, c'est l'une de mes fonctions. Je n'oublie jamais que ce sont des images virtuelles. Elles peuvent être floues, quand je frissonne, ou parfaitement exactes, quand je suis lisse, mais je ne m'y trompe jamais. Et je n'essaie de tromper personne. Je n'aurais pas idée de les présenter comme des images réelles. Ils disent qu'ils ont inventé l'impressionnisme, l'écho, la musique et l'art de voler. La montagne, les oiseaux et moi, on les laisse dire. Ils sont si démunis qu'on ne peut pas leur en vouloir. Ils se valorisent comme ils peuvent. Leur désarroi devant le temps et l'espace me touche. Et quand je suis touchée, moi, c'est infiniment. C'est la seule valeur de durée que je connaisse.
Hélène avait des flashs incroyables, des fulgurances, des éclairs de génie, des formules, si vous l'avez lu, vous le savez, on lit ça, puis on dit, mais tout à un moment donné, le monde s'ouvre, là, tout s'éclaire.
Dans la mémoire des lacs baigne énormément de culpabilité. Je n'arrive pas à oublier qu'un jeune homme très beau s'est noyé jadis parce qu'il a voulu rejoindre son image. Aujourd'hui encore, je me torture avec ce souvenir ancien et je me demande comment mon semblable aurait pu éviter ce drame. Qu'on soit lac ou humain, comment convaincre quelqu'un qui ne se rend compte de rien qu'il est en train de se noyer avant qu'il ne soit trop tard? Il faudrait combien de tonnes d'explosifs pour démolir ses croyances et ses écrans? C'est désespérant. Je n'arrive pas à comprendre cette nature humaine si différente de la nôtre. Moi, qui ne demande qu'à recevoir chaleureusement, dans la bonté de chacune des gouttes de mon eau, dans la beauté de mes fonds, dans la sensualité de mes algues fines, tous les êtres qui veulent bien venir en moi, sans distinction d'espèce, avec les humains, tout ce que je peux redonner au sable de ma berge, c'est un corps désarmé, une vie noyée. J'ai beau contenir de l'oxygène, moi aussi, tout comme l'air, ils ne peuvent pas respirer en moi sans l'aide d'une machine. Même si je savais pleurer, je ne réussirais qu'à gonfler mes os et n'y trouverais aucune consolation. Pourquoi est-ce que je contiens si peu de colère? J'efface toutes les traces, tous les pas sur le sable, minutieusement. Il n'y a pas de torture dans les amours des crapauds. C'est une des choses que je sais. Je vois bien ce que je regarde. Il paraît que l'humain a une technique pour empêcher une bête sauvage de l'attaquer. Quand il ne lui veut pas de mal, ce qui est possible, il le regarde droit dans les yeux et lui montre ses mains ouvertes, paumes tendues. C'est peut-être une de leurs légendes. Si j'étais un humain, j'appliquerais vite cette technique aux autres humains. Ça serait plus sécuritaire et nettement plus joli que leur poignée de main qui a toujours l'air de vouloir subtiliser quelque chose ou leur baiser distrait qui rappelle trop souvent la technique de Judas. D'autant plus qu'il paraît qu'ils empruntent souvent des personnages et qu'ils ne savent jamais, en réalité, à qui ils s'adressent quand ils se rencontrent. J'imagine des milliards de mains ouvertes, paumes tendues, qui se placeraient ainsi, en toute conscience, dans l'incapacité de prendre. Comment leur dire qu'en changeant un simple geste, ils changeraient le monde? Mais ils préfèrent se noyer dans l'eau de leur propre miroir. Ils sont tellement fragiles à la noyade. Je me demande jusqu'où les êtres humains sont faits comme les lacs. À l'extérieur, je ne vois vraiment aucune ressemblance entre nous. Pas besoin d'être un grand physionomiste pour s'en rendre compte. Mais à l'intérieur, je soupçonne une vie cachée, comme dans les tréfonds de mon être. À ma surface, rien ne transpire de ce que je recèle. Mais sous mes fonds de sable fin, il y a une sorte de lie, épaisse et gluante, qui assombrit ma transparence dès qu'on l'effleure. Dans cette vase, je n'ose penser à tout ce qui grouille et se reproduit. Au milieu des algues, des nénuphars, des truites grises qui tiennent tête aux brochets, des têtards, des troncs d'arbres morts, des ossements et des cailloux, je crains, à ma grande honte, de loger des bacilles coliformes. Il paraît qu'avec le temps, on s'abîme à trop fréquenter les gouffres. J'ai ouï dire que cela donne de la profondeur.
Pour moi, les gens qui ont toute cette complexité-là sont bien intéressants. On porte toute une blessure, qu'on approche ou pas, et de différentes façons. Elle l'a fait avec ses écrits, elle a parlé beaucoup avec ses écrits, puis elle a trouvé sa façon d'aimer. Mais ça n'empêche pas nos ombres, nos blessures, nos points aveugles.
Deuxième carnet. J'ai appris une nouvelle qui ne cesse de me troubler. J'en ai eu un vertige pareil à une montée de lune pleine, alors qu'elle n'était pourtant qu'un maigre croissant encore. Je faisais des vagues ce jour-là, ce qui m'arrive rarement. Je négocie mal avec le vent en bourrasque quand il fait alliance avec des trombes d'eau de pluie. J'étais déjà troublée. Mes os étaient gonflés, les arbres craquaient. La plus haute épinette, celle près du bouquet de cèdres, était en danger. Elle gémissait. Elle m'inquiétait depuis quelques lunes, sa sève circulait mal, elle perdait ses branches comme des feuilles en plein été. Je me disais bien qu'elle ne pourrait pas résister au prochain orage, elle ne tenait plus qu'à quelques racines. Et quand on ne tient plus à rien, on meurt. Je le sens comme une loi. Le vent furieux est venu chercher notre grande épinette comme un simple épi et l'a couchée hors de sa terre. Elle était si grande qu'elle gisait sur toute la longueur du terrain. La fille qui me traduit est sortie sur sa terrasse. Elle regardait l'épinette, impuissante. On aurait dit qu'elle avait de la peine. J'ai été surpris. Il est vrai que les éléments déchaînés sont difficiles à comprendre pour des humains à peine capables de colère. Elle a attaché la mangeoire des oiseaux avec du fil de fer, puis elle est venue vers moi. C'est ce moment qu'elle a choisi, au milieu du maelstrom, pour me crier que nous étions plus semblables que je ne le croyais et que tous les humains étaient faits de 80% d'eau. Dans sa bouche, on aurait dit une insulte. Et elle a couru dans la maison en luttant contre le vent, me laissant seule avec mon trouble. Je crois qu'elle n'allait pas bien. Elle avait perdu son rythme, elle était pleine de saccades. Il n'y aurait qu'un petit 20% de différence entre eux et nous ? Impossible. Sur le coup, je ne l'ai pas cru. Je ne vois aucune ressemblance apparente. Je vois de l'eau couler sur leur corps quand il fait chaud. Je les vois luire au soleil, dans leurs yeux parfois. Mais ce n'est pas suffisant pour être un lac. Ils viennent d'une mer et leur eau est salée. Je le sais, leur eau se dilue dans la mienne quand ils plongent en moi les jours de canicule. Autrement, je ne vois rien. Ce 20% de différence entre nous me semble infranchissable. Où sont leurs truites, leurs brochets, leurs dorés, leurs perches chaudes? Je ne vois jamais rien de leurs habitants. Après l'orage, le ciel s'est refait une beauté avec un arc-en-ciel double, l'équivalent de l'armistice chez les humains. Il ne se prend pas pour de la pourriture, celui-là. Toujours à se déployer en cinémascope, surtout après un orage où il pleure d'avoir à sortir des grilles et des anthracites qui, selon lui, ne le mettent pas en valeur. Il est bien le seul à le penser. Les peintres et les photographes adorent immortaliser ses plus belles noirceurs. Je n'ai pas fait une ride et j'ai reflété son œuvre à la perfection. On profite toujours de la beauté des autres. Je l'aime bien, ce bel extravagant. Il peut se prendre pour qui il veut, pourvu qu'il ne nous méprise jamais, nous qui sommes dessous. Je n'aime pas le mépris. Il est trop tentant d'y répondre par le mépris. Et après, on se sent pollué.
Hélène n'était pas anti-rien. Elle était pro-tout ce qui est bon, tout ce qui peut faire avancer. C'était pas une anti-anglais, Hélène, c'était une pro-français. C'était pas une anti-homme, c'était une pro-femme. Elle avait pas d'énergie à haïr, elle en mettait trop à aimer.
Je n'arrête pas de réfléchir à cette stupéfiante nouvelle. Quel intérêt aurait-elle eu à me mentir ? Ça me déstabilise. Ma confiance en elle est ébranlée. Je crains maintenant ce qu'elle peut faire dire à mes réflexions, une fois diluées dans sa langue. 20% d'eau en moins, et je deviens humain. Je ne suis pas prêt à ça. Mais si la mort d'un arbre peut les toucher, ils doivent être plus liquides que je ne le crois. On dirait qu'ils savent, eux aussi, que la mort de n'importe qui, c'est la mort tout entière. Tout ce que je sais ne me vient pas seulement des humains. J'ai une mémoire que je partage avec toutes les eaux du globe, de la plus modeste à la plus majestueuse, avec le ru, l'océan et l'étang aussi. La plus petite mare d'eau contient toujours l'espérance d'un lac. Nous couvrons 70% de la surface de la planète, mais nous n'en tirons aucune gloire particulière. Ils ont fait de certains de nos fleuves et de nos rivières des frontières bien gardées, alors que nous sommes tous reliés les uns aux autres, sans règlement aucun. Nous n'en avons pas besoin. Ils comptent nos saumons et nos morues. Nous les avons même laissés faire de nos mers des eaux territoriales où ils se battent pour les poissons, passent des lois et s'arraisonnent, si ça peut leur faire plaisir. Ils ont un tel sens de la propriété. Mais comment peuvent-ils espérer tirer une ligne dans un océan qui est déjà maître de l'horizon ? Dans le 20% d'eau qui leur manque, y aurait-il tant de candeur ? C'est fascinant. En fait, ils sont terriblement paradoxaux. Ils réglementent ce qui ne se réglemente pas, comme la limite des eaux, mais partout ailleurs, ils déréglementent comme des fous. Ça ne tient pas debout. Il faut des règles. Dans ma nature, nous avons des règles tacites entre nous, pas des règlements écrits, imposés et signés. Nos règles sont assez larges pour donner à tous une certaine marge de manœuvre. Par exemple, l'hiver peut commencer à se manifester à la fin de septembre s'il le veut, et arriver pour de bon en décembre. Ou l'été peut se prolonger jusqu'en octobre, pourvu qu'il laisse place à l'automne. Nos saisons ont le droit de se croiser, de s'échanger des jours, voire des semaines. Elles peuvent être plus ou moins longues ou plus ou moins courtes, mais elles doivent impérativement avoir lieu à l'intérieur de certaines limites pour préserver l'harmonie. Les arbres et les plantes, par exemple, seraient les premières victimes innocentes d'une saison qui tricherait, puisque leur vie dépend de la fidélité des saisons. Leur génétique est programmée en conséquence. Il est vrai que le climat est de plus en plus perturbé par les actions des humains, qui l'influencent sans le savoir ou sans le vouloir, ou ils font semblant qu'ils ne savent pas. Il arrive que mes eaux gèlent un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais depuis quelque temps, les étés sont si chauds que mes eaux s'évaporent et que mon niveau descend dangereusement. J'ai des plages maintenant que je n'avais pas il y a quelques années. Je dégèle parfois dangereusement en plein mois de février. Le climat est bousculé et nous bouscule. Certains mars, les pauvres fleurs croient que le printemps est arrivé, elles sortent de terre et se font décimer en avril par un gel soudain. Franchement, je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. Faire semblant est une chose étonnante et très difficile à comprendre dans les mœurs des humains. Ils prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas, ou ils disent quelque chose et font le contraire, ou ils nient la réalité, même quand elle est sur le point de leur exploser à la figure. Ils font comme ça avec les trous dans la couche d'ozone. C'est la fatalité ou le voisin. Est-ce que je peux prétendre être autre chose que ce que je suis ? Je n'ai aucune possibilité de me déguiser, de devenir comme eux un personnage, pas plus que les arbres, les fleurs et les animaux. Les humains pratiquent peut-être l'art des phasmes, ces drôles d'insectes qui font croire qu'ils sont des brindilles, ou celui des caméléons, qui changent de couleur selon la surface sur laquelle ils se posent. Faire semblant doit être une tactique de survie de ce genre pour les humains. Une image me revient de l'été dernier. Un goéland est venu se poser sur moi. Il a flotté sur mes eaux comme sur une mer jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière la montagne. Il est venu sur moi, modeste petit lac d'eau douce. Moi, humble lac de montagne qui ne peut se vanter que de quelques poissons, de quelques algues et de quelques barrages de castors vite défaits par les hommes. Le goéland était seul et sentait la mer. Venait-il en éclaireur ? Était-il simplement perdu ou venait-il me donner ma part de somptueux ? Je ne me suis jamais autant senti relié à quelque chose de plus grand que moi. Il fait soleil aujourd'hui. Un soleil un peu dur et déjà moins jaune. La neige rôde. Celle-là, tout ce qu'elle touche se change en or. Elle tisse ses cristaux en douce, invisibles dans l'air du temps, piquantes, avec un petit quelque chose de saumâtre qui me fait de l'écume à la surface, même sans vent. Elle chasse l'odeur lourde des feuilles mortes et laisse son parfum de givre partout. Je la reconnais. Je vais figer bientôt. Le froid et moi, nous nous entendons chaque hiver sur une couche de glace, à condition que je sois libre dessous. Je peux dire qu'il fait partie de moi depuis le temps. Encerclé par mes rives, enfermé sous mes glaces, d'où vient que je ne me sente jamais prisonnier ? Il paraît que les humains aiment s'enfermer les uns les autres, mais rarement dans la glace. Il y a des maisons spéciales pour ça, des mariages ou des contrats signés. Ils postent des gardiens à la porte, posent des questions ou des grillages aux fenêtres. Ils n'ont même pas besoin d'être deux, certains s'enferment tout seuls, sans aide apparente, ou avec une aide cachée, trop ancienne pour qu'on se souvienne de son nom. Ils finissent par ne plus être capables de sortir et meurent sans être vus. Dans les prisons, il y a des gens qui sourient. Ça pourrait être une victoire sur les murs, mais ce n'est pas bien vu. Les gens doivent toujours savoir quoi faire en toutes circonstances. Et quand ils se trompent de circonstances ou qu'ils font autre chose que ce qui était attendu, c'est un blasphème. Ont-ils ce qu'il faut pour savoir que chaque prison qu'ils construisent avec ou sans mur les diminue ? L'univers est semblable à ce qui arrive. J'en viens à croire que les blessures sont nécessaires aux humains. Quand je vois ces bouquets de cicatrices se promener sur mon sable les plus beaux soirs d'été, là où la paix se souvient de son nom et que je suis lisse comme une peau d'enfant, je me dis qu'ils doivent être bien contents de survivre. J'ai vu une femme et un homme, un soir. Ils étaient si heureux que j'ai craint un moment qu'ils n'en réchappent pas. J'ai tant de mal à comprendre la force du bonheur dans leur précarité. Aujourd'hui, pour me consoler de l'épinette morte, elle m'est arrivée avec une belle histoire d'arbre et de femme. Depuis 100 ans au moins, sans bouger, sans le vouloir, sans même le savoir, arbre, seulement arbre, en toute plénitude, il était baigné de pluie et de soleil et de lune, des odeurs printanières et des couleurs automnales, des rumeurs du vent et des cris d'oiseaux, de la frénésie de l'été et du repos de l'hiver. Et bien longtemps encore après qu'elle serait morte, il exulterait sous 10, 20, 100 poussées de nouvelles sèves. Comme elle, pourtant, il serait un jour dissous dans l'univers insensible. C'est vrai que les histoires et les mots contiennent une grande part de consolation.
elle mériterait certainement d'être plus connue, reconnue, parce que c'est quelqu'un qui a interpellé à la fois la condition humble des personnes, la condition des femmes, la préoccupation environnementale, la question nationale.
Je me fais tranquillement à l'idée de notre ressemblance. Pour faire la paix, la fille est venue me chanter une jolie chanson. Ça disait « J'ai mémoire des eaux où je me suis baignée », ma phrase préférée. Je crois qu'elle est amoureuse de tout ce qu'elle ne sait pas de moi. Et j'ai fini par comprendre que c'est elle qu'elle veut rassurer quand elle cherche des ressemblances entre les humains et les lacs. Je me suis calmée. Elle souffre de sa nature humaine. C'est une femme du monde. Elle ne veut pas moins. Elle se trouve à l'étroit. Je commence à bien la sentir. J'ai une certitude à son sujet. Elle est faite pour n'être que ce qu'elle est. C'est ce qu'elle réussit le mieux. Vous venez d'entendre un morceau des Carnets du Lac de Hélène Pedneaux, ainsi que des éléments d'entretien avec Francine Pelletier, Marie-Hélène Falcon, Marie-Claire Séguin, Nicole Boudreau et Gérald Larose. Redécouvrir Hélène Pedneaux, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.